ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Vincent Dessoureau, bonjour.
Bonjour.
Écoute, pas de conférence de presse aujourd'hui. On se remet peut-être du roman de Marie Laberge d'hier.
Peut-être. Certains auront le temps de le lire sur le patio, peut-être, aujourd'hui.
Pas si ça a fait augmenter les ventes drastiquement.
Sûrement.
Ben oui.
Sûrement.
Mais elle n'a pas de problème de vente, Marie.
C'est ça.
Normalement.
Ça va d'ailleurs assez bien. Mais effectivement, en fait, il n'y a pas de point de presse à 13h. Alors, de toute façon, le bilan, on le reçoit maintenant vers 11h via communiqué. Là, vous dire qu'aujourd'hui, c'est 61 nouveaux décès. Ce qui est quand même encore élevé. Un peu moins que les derniers jours, quand même. Mais ce qui est vraiment meilleur, c'est le nombre de cas, 530 aujourd'hui. Honnêtement, c'est dans les plus bas qu'on a vu depuis longtemps. Mmh. Hospitalisation, moins 66. Alors, ça continue là, vraiment la baisse de pression dans le milieu hospitalier. C'est une très bonne nouvelle. 1265 personnes hospitalisées. On était à près de 2000 il n'y a pas si longtemps. Et 6 de moins aux soins intensifs également. Alors ça, ça demeure des bonnes nouvelles. C'est quoi qu'on franchit le cap des 50 000 cas au Québec confirmés. Mais somme toute, ça montre que le déconfinement pour l'instant, ne semble pas montrer de hausse de cas, mais il faudra voir l'effet Montréal dans les prochains jours.
Il faut attendre 14 jours, mais est-ce que tu penses que ces bonnes nouvelles-là, entre guillemets, parce que c'est quand même des décès, là, vont avoir une incidence sur le degré de méfiance des gens? Est-ce qu'on va baisser notre garde? Parce que c'est ça le danger.
Oui, c'est ça le danger, effectivement. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on le voyait hier dans le rapport de l'INSPQ que notre futur, on l'avait vraiment entre nos mains. Là,
et là,
que
là.
Si on respectait faiblement les recommandations de la santé publique, ça allait repartir à des niveaux quand même dangereux. Mais que si on respectait, on allait avoir un bel été, parce qu'on nous a déjà donné beaucoup. On va avoir un été. Il y a des activités qui peuvent se faire et tout ça, c'est une bonne nouvelle.
J'étais allé au restaurant, moi, hier, sur le trottoir.
C'est ça, mais prenons ça, puis respectons le reste pas mal. Mais effectivement, on voit que des gens, quand ils sont une fois, et c'était les craintes de M. Arruda, de dire, on vous autorise à faire un barbecue, là, après ça, passe la fourchette, puis là, on l'oublie, puis là, tout le monde se... Et effectivement, il y a quand même beaucoup de ça,
mais rappelons-nous... Les vieux réflexes reviennent rapidement.
C'est ça, rappelons-nous qu'on nous a donné... Parce que plusieurs vont dire, si on peut faire ça, pourquoi on peut pas faire ça? C'est justement... Parce que tu peux faire ça, que tu peux pas faire ça.
C'est graduel.
On peut pas tout faire en même temps.
Y aller graduellement.
Effectivement.
Je me promenais par contre hier et je voyais un parc de Montréal sur le boulevard Saint-Joseph. Il y avait quand même des attroupements d'une dizaine de personnes qui respectaient pas le 2 mètres de distance. Puis je pense pas que c'était des membres de la même famille. Il y en a beaucoup là. Je pense qu'en ce moment on relâche un peu notre garde en se disant j'ai pas la COVID, inquiète-toi pas. Mais on se rappelle qu'on peut être asymptomatique. Hein. Ça on a tendance à l'oublier.
Et au parc là, vous allez vous entendre pareil. 2 mètres c'est pas si loin là. On est présentement à 2 mètres, on se voit, on s'entend.
On est proche. On peut tisser des liens.
Voilà.
Le premier ministre qui visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui.
Oui, Lanaudière, alors que justement, il n'y a pas de point de presse, mais il a quand même un point de presse plus tard, là, parce que c'est dans Lanaudière que ça se passe aujourd'hui, une des zones quand même chaudes du Québec, beaucoup moins que Montréal, Laval et la Montérégie, mais quand même, c'est bon, 4e, là, 3900 cas, 179 décès. Alors, on va rencontrer, entre autres, des responsables locaux aujourd'hui. Lui et Daniel Mécan, la ministre de la Santé, qui y sont, vont faire un point de presse, donc à 15h, pour donner certains détails sur la réponse dans cette région.
Puis est-ce qu'on sait si dans la ville de Joliette, c'est toujours aussi critique?
Critique, y a, encore là, ça s'améliore. Là. Joliette aussi, comme un peu le portrait au Québec partout, mais ça demeure une zone qui est à risque.
Bon, la docteure Mylène Drouin qui critique sérieusement la gestion de la crise par les autorités au Québec.
Oui, quand même. Toute une histoire. Le docteur Mylène Drouin, qu'on connaît bien maintenant, la directrice de la santé publique pour la région de Montréal, qui voit donc qui a senti le besoin de réagir là, dans une entrevue accordée à la presse. Elle affirme avoir exprimé son mécontentement au directeur national de la santé publique, Dr. Arruda, dès le 9 mars dernier, comme quoi la ville de Montréal, la métropole, n'aurait pas dû être gérée. En fait, cette crise-là n'aurait pas dû être gérée à partir de Québec, alors que c'est une crise qui se passait en très grande partie à Montréal. On explique aussi que selon le docteur Drouin, les compressions budgétaires, et on en avait déjà parlé dans un point de presse là en direct, alors que M. Arruda était pas très loin, que c'est pas lui qui a fait les coupes, mais que les compressions budgétaires de 30% avaient été très difficiles, avaient limité donc les outils pour la santé publique à Montréal, et aussi le système qu'on a fait à la suite de la réforme de Gaétan Barrette, en quelque sorte, et c'était le titre, là, un peu couper les jambes de la santé publique à Montréal, enlevant en quelque sorte l'autorité de la santé publique sur des CIUS et des établissements de santé de Montréal. Alors on verra, il y aura des réactions du docteur Arruda sûrement et de monsieur Legault aujourd'hui.
Oui, je ne sais pas s'il sera piqué au vif notre bon docteur Arruda parce qu'on connaît son tempérament un peu bouillant, il semble pas très bien prendre la critique, mais quand même c'est intéressant ce que tu soulignes parce que je critiquais tout récemment la gestion de crise, l'administration Plante par rapport à la COVID-19, mais c'est bien évident qu'en même temps, même si l'état d'urgence était décrété, pouvait pas agir comme bon leur semblait puisque ça relevait de Québec. Ça aurait quand même été plus efficace qu'ils aient plein pouvoir. Selon moi, reste à savoir s'ils auraient pris des décisions plus heureuses, mais quand même, c'est quand même pas optimal là, d'avoir géré cette crise-là à distance. Comme
effectivement. C'est sûr que pour le personnel, je pense que le premier ministre, tu veux pas s'il y a une éclosion d'une maladie dont on ignore la gravité là, à ce moment-là.
Mais plus de communication, mettons.
Mais tu veux pas nécessairement le mettre dans zone rouge là, toutes tes forces là, parce qu'ils vont tomber malades. Là.
Ouais.
Je comprenais quand même, mais d'avoir un peu plus focusé sur ce qui se passe à Montréal avec la santé publique sur place.
Puis est-ce qu'on était assez vite aussi pour je sais pas si le bon terme est réalisé, mais pour divulguer un peu à quel point la situation était préoccupante à Montréal, ça a pris du temps, me semble, avant qu'on nous dise un peu, voici ce qui se passe.
Ben, on avait les chiffres au quotidien, là, quand même.
Ils nous le disaient pas, mais on a besoin de se le faire dire des fois. La population a besoin de se faire dire que c'est grave. On a pensé d'ailleurs à fermer Montréal à un moment donné. Là, ça a pris du temps quand même avant qu'on ose le dire. C'est ce que je trouve.
Bon, on verra la réaction du gouvernement là-dessus.
Allons du côté de chez Justin Trudeau. Qui annonce encore des millions de dollars.
Oui, 650 aujourd'hui millions pour les communautés autochtones, entre autres pour les soins de santé, 285 millions donc pour entre autres embaucher davantage d'infirmières, avoir des fournitures et compagnie. Programme d'aide également aux revenus pour acheter autant l'épicerie que de la formation et 85 millions pour des refuges, abris pour femmes et enfants autochtones. On avait déjà débloqué 10 millions, on en rajoute donc 85. Également, il est revenu sur les réunions des premiers ministres hier au téléphone où on a parlé de plusieurs sujets, entre autres le 10 jours de congé. Il semble que certains premiers ministres des provinces ont été inquiets par rapport à cette mesure-là pour pas rajouter un fardeau sur les entreprises. Mais M. Trudeau a rassuré tout le monde disant que, ben, en gros, on va payer la facture au fédéral.
Ben là,
alors, c'est à peu près ce qu'il a dit.
Peux-tu rire un peu?
Il a
rassuré tout le monde en les assurant qu'on allait payer Mais c'est nous qui va la payer la facture.
C'est nous, c'est effectivement.
Je vois pas ce que ça te rassure.
Ce sera pas l'employeur, rassurez-vous, mais ce sera nous collectivement. Confirmant également que les grands navires de croisière sont bannis au Canada d'ici le 31 octobre pour l'instant.
Et l'industrie du tourisme doit quand même un peu capoter. Les villes comme Québec qui sont habituées de recevoir beaucoup de bateaux l'été, ça fait une immense différence.
Là. C'est sûr. Et les billets d'avion, question qui est revenue également auprès des... Ça a été difficile d'avoir une réponse de M. Trudeau. Ce qui ne veut pas nécessairement répondre. Est-ce qu'on devrait rembourser plutôt qu'offrir des crédits?
Ça, c'est tout un débat.
De monsieur,
Puis en même temps, je trouve ça tellement malhonnête. Tu sais, quand t'as acheté des billets d'avion puis qu'on t'offre un crédit, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir le prendre. Tu sais, concernant les compagnies aériennes, je parle, c'est quand même excessivement préoccupant. Et bon, parlant des transports aériens, un guide des bonnes pratiques qui va sortir lundi, là, parce qu'évidemment, ça va reprendre. On ne sait pas quand, mais indubitablement, oui, on va recommencer à prendre l'avion le 20.
Mais ça vous donnera peut-être le goût de partir, parce que l'aviation, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est basée à Montréal, va publier lundi, c'est ce qu'on a appris sur une radio française aujourd'hui, le guide des bonnes pratiques pour les compagnies aériennes. Donc, toutes sortes de nouvelles façons de faire, système multicouche avec des niveaux de contrôle, des déclarations de santé pour les compagnies, des contrôles de température, port du masque obligatoire dans plusieurs phases là du vol, désinfection avec des produits antiviraux, mais on ne recommande pas nécessairement de bloquer les sièges du milieu. Ce que les compagnies ne souhaitaient pas, parce qu'évidemment, ça rend les vols pas mal moins profitables.
Mais s'enfermer d'une canne, en ce moment, me semble, c'est la chose qui me ferait le plus peur. Tu sais, l'avion, c'est l'air recyclé, c'est la proximité, je sais pas.
Mais il y a des gens qui vont...
Avec une bonbonne d'oxygène.
Tout le long, oui, ça va lourdir un petit peu le vol. Alors, dès lundi, on aura cette nouvelle façon de faire.
Bon, sortons de la COVID-19 un peu, parce qu'il se passe autre chose et on dirait que ça fait du bien d'en parler, même si on n'a pas tout le temps des bonnes nouvelles. Là, qu'est-ce qui se passe avec André Boisclair, Vincent?
Bon, rappelez quand même du nouveau aujourd'hui, l'ancien politicien André Boisclair qui s'est présenté ce matin au Centre opérationnel Est de la police pour prendre ses empreintes digitales. Lui qui portait un masque, justement, donc, est arrivé vers 8 heures dans un VUS, n'a pas fait de commentaire. Il a quitté 3h30 plus tard, questionné par les journalistes. Là, il a parlé, Geneviève, il a dit 2 mètres. Ben, alors, voulait que les gens s'éloignent de lui. Lui qui est accusé, je vous rappelle, d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers pour un événement qui serait survenu à Montréal en janvier 2014. Alors, évidemment, pour lui, risque une peine maximale là, de 14 ans de prison. Alors, un dossier qui a ébranlé beaucoup de gens hier dans le milieu politique.
Ben, ébranlé, vraiment.
Ben, ébranlé, je veux dire, la nouvelle.
On dirait qu'il n'y avait pas grand monde de surpris. Je dis ça, je dis rien.
Semblait y avoir des gens quand même dans le milieu politique qui...
qui tombaient en bas de leur chaise?
Qui tombaient pas en bas de leur chaise, mais je peux pas dire...
J'essaie de te faire dire des affaires.
On peut pas en dire plus, effectivement, là-dessus.
Merci.
Et aux États-Unis, juste rapidement, là, sur ce qui se passe à Minneapolis, on surveille ça, évidemment, c'est vraiment bouillant. Monsieur Trump qui en a un peu rajouté aujourd'hui. Et on apprend, là, nouvelle de dernière heure intéressante, George Floyd, donc lui qui est mort, et le policier Derek Chauvin se connaissaient. Ils ont travaillé ensemble durant de plus nombreuses années dans un resto-bar, le El Nuevo Rodeo. Alors, la propriétaire, qui d'ailleurs n'en revenait pas, mais ils se connaissaient les deux. Alors, c'est pas le genre d'information qui va calmer les tensions là-bas après 3 jours de manifestations parfois très violentes.
Non, puis ça vient de changer la donne. Puis d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement avec Vanessa Destinée qui s'en vient tout de suite après la pause. Mais avant, merci Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario. Je veux qu'on se parle un peu de Kylie Jenner. Quand même une nouvelle qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Vous savez, Kylie Jenner, membre du clan Kardashian, qui a fait la une récemment du magazine Forbes parce que c'est la plus jeune millionnaire au monde. Eh bien, Kylie Jenner n'est plus milliardaire, pardon, pas millionnaire, et aurait menti sur sa fortune. C'est une véritable bombe, je l'ai dit, pour l'industrie de la beauté aussi, pour la business de l'influence. Et vraiment, en 2018, elle a détrôné le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Et là, vraiment, le magazine Forbes qui se ravise parce qu'il y aurait eu une enquête. Et ce qui ressort de cette enquête-là, et c'est vraiment du dirty material, OK, c'est que la famille Kardashian aurait comploté depuis des années pour faire augmenter la valeur de l'entreprise de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, avant de la vendre. Parce que cette entreprise-là a été vendue à Coty, qui est une entreprise qui possède plusieurs brands de beauté. Coty qui a acheté 51% des parts de l'entreprise de Kylie Jenner pour 600 millions de dollars en novembre dernier. Et là, ce que l'enquête conclut, l'enquête du magazine Forbes, c'est que, en fait, l'entreprise Kylie Cosmetics est nettement plus petite, vraiment plus petite, là, et moins rentable que la famille le laissait croire pendant des années en l'industrie des cosmétiques, mais aussi aux médias. Et je sais pas si vous écoutiez l'émission fort populaire Keeping Up with the Kardashians, mais vraiment, l'objectif de cette émission-là, entre autres, semble de vouloir prouver à la planète entière à quel point le clan Kardashian est riche, et vraiment, ils sont prêts à tout pour prouver cette richesse-là. Ils invitent des journalistes dans leur maison, dans leur manoir, sur le bord de leur piscine. Et ils ont même poussé l'audace jusqu'à inviter certains journalistes dans les bureaux de leur comptable. Ils leur ont même montré des retours d'impôts. Et là, ce que l'enquête conclut, c'est que ces retours-là d'impôts étaient probablement falsifié. Et vraiment, là, si vous allez lire l'article, c'est en anglais, malheureusement, sur Forbes, qui explique cette enquête-là. On explique les calculs qu'utilise habituellement le magazine pour dresser son fameux palmarès. Et ce qui est vraiment absolument abominable là-dedans, c'est que là, Coty aurait payé beaucoup trop cher pour l'entreprise de Kylie Jenner. Elle aurait aussi menti sur les marges nettes découlant de la vente de ses profits. Donc, la profitabilité de l'entreprise aussi est remise en question. Et là, on estime quand même, elle fait pas pitié, Kylie, là, on va se le dire, sa fortune s'estimerait maintenant à un peu moins de 900 millions de dollars. Donc, tu sais, on s'entend, là, elle est pas pauvre. Mais ce qui est vraiment très, très grave, c'est qu'elle a menti, qu'elle aurait falsifié des documents et qu'elle aurait vendu une entreprise beaucoup trop chère. Donc, c'est une histoire quand même qui va être intéressante à suivre parce que ça va certainement, oui, ébranler le monde de la beauté, mais ébranler aussi le monde des influenceurs. On sait que la COVID-19 a fait très, très mal à l'industrie des influenceurs. Plusieurs ont perdu une bonne partie de leurs revenus. Et ce qu'on remet beaucoup en question aussi parallèlement à la crise de la COVID-19, on avait déjà commencé à avoir cette discussion-là avant. C'est justement la fiabilité de ces gens-là qui sont pas tenus de montrer des revenus, des états de compte. Donc vraiment, c'est un peu un monde de bonne foi, là, c'est-à-dire on croit qu'est-ce qui nous est montré et quand on regarde cette histoire-là avec Kylie Jenner, on se rend vite compte que la réalité était pas mal moins dorée que ce qui semblait sur les médias sociaux. Et ça sera quand même intéressant de voir aussi si le clan Kardashian-Jenner va commenter cette nouvelle-là. Ils sont pas encore sortis. Gardent le silence pour le moment. J'imagine qu'ils parlent avec leurs nombreux avocats, mais on peut s'attendre à ce que Coty peut-être intente une poursuite. Donc, ça sera très, très intéressant à suivre Kylie Jenner, qui ne serait pas milliardaire telle qu'elle le prétend depuis plusieurs années.